Promeneur de montagne, le podcast qui vous propose une immersion en pleine nature au cœur de la montagne. Du reportage aux rencontres avec les personnalités qui font la montagne de demain, en passant par des témoignages et interviews de passionnés d'outdoor, quelle que soit la saison, comme un air de montagne vous fera prendre une grande bouffée d'air frais. Dans cet épisode, nous partons à Combloux, un village authentique en Haute-Savoie qui offre un panorama exceptionnel sur le Mont Blanc. Il fait partie de la région Savoie-Mont Blanc et ce village est à seulement une heure de Genève. Nous partons à la rencontre de Baptiste Chassagne, champion de France de trail 2023. Il nous emmène sur ses sentiers, sur sa montagne. On parle avec lui de son arrivée dans le trail, mais aussi de ses prochains objectifs. Cet épisode a été enregistré cet été, juste avant l'UTMB, course dans laquelle il s'est notamment illustré.
En tout cas, c'est génial, je suis heureux de vous faire visiter mon...
Baptiste, tu es de Combloux ?
Moi, je suis de Lyon, je suis un enfant de la ville et j'ai grandi à Lyon. Famille aisée, quartier populaire, c'est un peu bizarre. Je dis ça parce que, en fait, ça me donne... Je crois que ça a vachement influencé ma vision de la montagne aujourd'hui. Et je suis arrivé à Combloux, j'ai mes études à Paris, à Sciences Po, donc rien à voir. En fait, je visais le haut niveau, mais dans les études à la base. Et je voulais bosser en fait, je suis passionné de sport depuis que je suis tout petit, vraiment. Et je voulais bosser au CIO, à la FIFA, dans une grande institution. En fait, je voulais aider les athlètes, parce que je pensais pas en devenir un moi-même. Et au final, j'ai fait ces études, j'ai fini en stage chez Rossignol, la marque de ski Rossignol Dynastar, à Grenoble. Et en fait, là, j'ai commencé à courir. Moi, je faisais énormément de foot, j'étais très mauvais, enfin très mauvais. J'étais un besogneux, quoi. Numéro 6, besogneux, genre joueur de devoir, genre... Non, Witzel, il a quand même une petite technique. Ouais, Nainggolan, il était bien comme ça, quand même. Et en fait, j'ai commencé à courir en montagne, et petite course, locale. Et en fait, ce qui m'a plu tout de suite, plus que la montagne, c'est la performance. Enfin, c'est le fait d'être dans une démarche pour être de plus en plus performant. Et là où je veux en venir, par rapport à ma vision de la montagne, c'est qu'en fait, je suis d'abord tombé amoureux de la démarche de performance. Et en fait, je suis en train de tomber amoureux de la montagne. Je suis venu après... En fait, je suis plus un coureur de la ville et qui aujourd'hui s'est installé à Combloux depuis mes parents ont un appartement depuis 12 ans. En fait, on venait en vacances, du coup forcément en même temps je me suis mis à courir, j'y suis venu de plus en plus. Et en fait aujourd'hui avant l'appartement était en location quand ils n'étaient pas là. Et en fait maintenant ils me l'ont laissé. C'est leur manière de contribuer à mon projet. Je suis hyper chanceux. Et j'ai toujours mon appartement à Lyon, en coloc avec mes deux meilleurs potes, à la Guillotière. C'est le quartier un peu populaire, enfin un peu le Barbès. Tu vois le quartier un peu bobo mais populaire. Et du coup j'ai l'équilibre. Quand je finis la montagne, bah, moi j'adore tout l'aspect culturel, j'ai fait mes études à Paris, j'ai grandi à Lyon. Parfois j'ai besoin d'aller à la ville quoi.
Dis-moi, qu'est-ce qui te plaît ici à Combloux ?
Moi j'aime Combloux parce que c'est la montagne, je l'appelle la montagne gentille. Parce que à Cham, c'est... Enfin moi qui viens de la ville, en fait j'ai peur en haute montagne. Moi maintenant je l'assume quand c'est trop engagé. J'aime bien quand c'est technique, mais quand c'est engagé j'ai peur. Bref, et du coup, Combloux je trouve c'est un bon... Mais là je vais aller voir, là on va monter. Bon c'est assez roulant. On va être sur une piste, comme ça, assez... Parce qu'en fait, il n'y a qu'un chemin un peu joueur qui monte au sommet de la station. Globalement, au sommet des pistes. Et je voudrais que le chemin joueur, on le prenne à la descente, c'est plus sympa. Donc là, on va monter par une petite piste 4x4. Et en fait, après, on rentre dans le domaine beaucoup plus sauvage. Et à partir de là, c'est beaucoup plus sympa. Moi, j'aime bien aussi quand c'est roulant, mais c'est beaucoup plus single et sauvage, quoi. Mais t'es obligé, ça se mérite. T'es obligé de faire ces 600 D+ qu'on va faire.
Toi, tu préfères la montagne douce.
Je te dis, j'ai aucune honte à dire. Enfin, j'ai peur dans la montagne engagée. J'essaye de... Je suis très respectueux, enfin je lis à taquet de Frison Roche, j'essaye de m'imprégner de la culture et tout ça. Mais en fait quand c'est pas ton milieu naturel quand même, c'est... Et au début j'ai beaucoup souffert de ça. Je trouvais qu'il y avait un chamanisme, comme il pouvait y avoir un parisianisme un peu, en mode « Ah tiens, toi t'es de la ville, ah ouais non, tu peux pas faire de ce... Enfin, tu fais pas vraiment du sport, tu fais pas vraiment du trail quoi. À la Saint-Élion, ah non c'est pas vraiment du trail. » Ou, enfin tu vois des trucs un peu... Moi ça m'a choqué au Marathon du Mont-Blanc, il y a un gars, je le salue, je lui dis « Ah tu viens d'où ?» et tout. Moi j'aime bien demander aux gens d'où ils viennent, ça dit beaucoup je trouve. Et il me dit je viens de Paris, personne n'est parfait. Et je me dis ah ouais putain en fait il sent une pression ici de devoir se justifier parce qu'il vient de Paris et de la ville quoi. Et ça m'a longtemps dérangé à Chamonix, maintenant un peu moins mais...
Ici c'est ton coin favori.
Là où on est en train de courir, je pense que je viens une fois par jour, ouais globalement. Bah, je viens pas tous les jours mais en tout cas je viens 365 fois par an.
C'est quoi ta journée d'entraînement type ?
Ben aujourd'hui, typiquement je suis sur une journée type. Déjà, moi j'aime bien doubler, donc faire deux entraînements par jour. Globalement, je m'entraîne. Ouais, disons qu'il y a trois journées dans une semaine. Il y a la journée de volume où je vais faire long à pied ou à vélo. Donc ça va être entre 3 et 6 heures à pied et 4 et 7, 8 heures à vélo. La séance d'intensité, du coup, qui va être soit à pied et, comme, ou à vélo, comme sur home trainer comme ce matin, est complétée par une récup dans l'autre sport que j'ai pas fait. Et l'autre journée type, c'est la récup, c'est une heure de footing ou un repos complet. Et disons globalement que j'ai 2 jours de volume, 2 jours d'intensité et 3 jours tranquilles par semaine. Et l'hiver, je fais beaucoup de ski de rando aussi. Ici, c'est le paradis hein, pour le ski de rando. Parce que en fait, t'es dans les arbres et c'est hyper accessible. Enfin, si tu veux débuter le ski de rando, c'est le spot parfait. C'est beau. Je fais ce qu'on appelle du ski fitness et pareil, j'assume. En fait, je remonte les itinéraires balisés, les itinéraires pas compliqués ou les pistes, globalement, pour faire du dénivelé. Mais je suis incapable de faire la pierre à mainte. J'ai pas le niveau technique. Par contre, je vais encourager les copains à la pierre à mainte. Je pense que j'aurai le niveau à la montée, mais à la descente, c'est trop technique. Donc je dis que je fais du ski fitness, ça les fait bien rire, mais c'est vrai, hein. Et ça met la caisse. En fait, on va arriver au sommet là-haut, ouais. Et après on va prendre un petit chemin joueur. Et là, pour le coup, après ça devient vraiment plus raide été. Et là, ça marche, quoi.
T'as une agence sur le côté.
Ouais, j'ai à côté. Ouais, j'ai une petite agence de com. Je fais de l'éditorialisation. Enfin, globalement, j'écris. soit des stratégies éditoriales, soit jusqu'au copywriting, comme on l'entend, brain content, pour des médias. Donc j'écris pour Trail Endurance, pour même si je suis pas journaliste, hein, j'ai pas mal de diplômes de journaliste. Si tu veux faire une, enfin si tu vas aller au petit cross-bolet, t'es obligé de passer par ici. Et hormis pour des séances d'intense, c'est pas le plus beau. Après là, on va arriver dans la forêt, ce sera plus sympa.
Sur Strava. Tu as noté apprenti ultra trailer. Et donc à quel moment est-ce que tu estimeras que tu es passé ultra trailer ?
Apprenti parce que je considère que j'ai toujours plein de choses à apprendre. Après là c'est vrai qu'année dernière j'ai quand même franchi un cap en termes d'apprentissage. Enfin, pour moi la CCC c'est pas vraiment un ultra. Enfin dans la définition que j'ai, pour moi l'ultra tu dois y passer la nuit. Parce que je trouve que la nuit t'as cet aspect vraiment face à toi-même, face aux éléments. T'as vraiment la vulnérabilité. Moi, j'ai un peu peur la nuit, en fait. Et du coup, pour moi, j'ai jamais fait d'ultra avant de faire la Transgrande Canaria. Et globalement, dans ma vie, j'ai fait que 2 ultras, du coup. La Grande Transgrande Canaria et le Lavaredo. Les 2 CCC, les mondiaux, même si c'est des efforts qui se rapprochent de 10 heures, du moment où tu passes pas la nuit, c'est pas des ultras. D'où l'apprenti ultra trailer, parce que j'en ai pas fait beaucoup. Et puis parce qu'en fait, je suis pas de la montagne, donc...
Est-ce qu'il faut être de la montagne pour être ultra trailer ?
Non, je pense pas, mais... Faut pas être de la montagne, par contre il faut y passer forcément un bon bout de temps quoi. Et du coup je suis pas encore. Mais il y avait une phrase qui m'avait marqué, c'était Martin Fourcade, il disait qu'il y avait un nombre d'heures, un volume d'heures à faire avant d'être à haut niveau dans son sport. Et d'une certaine manière, je pense que en ultra trail c'est pareil, il y a un nombre d'heures à passer en montagne avant de pouvoir être performant sur ce genre de distance. Et quand tu commences sur le tas, l'erreur à faire, c'est de dire bah du coup je vais compenser, et c'est un peu ce que j'ai fait au début. Et je me suis blessé, j'ai fait une fracture de fatigue. Je me suis compris que c'était pas... J'ai compris que c'était pas la bonne solution. Et qu'en fait, si tu les prends avec plus de maturité, il faut peut-être un petit peu moins d'heures. Parce que les heures que tu fais à 16-17, je pense que tu les apprends pas pareil que quand t'as la maturité d'un gars qui a 25-26. Apprenti. Mais bon, avant, j'avais un petit syndrome de l'imposteur quand même. Donc j'aimais pas trop. Vous savez ce que c'est, ça ?
C'est un tracé type GR, non ?
Ah, exactement, ouais. C'est le... Tour du pays du Mont Blanc. Et en fait, on est 2 trailers dans la commune. Donc, enfin 2 trailers, non, il y a plus de trailers, mais soutenus par la mairie, enfin, par la commune, Jérémy Marin et moi-même. Et Jérémy Marin, pendant le confinement, ça a été son défi de rouvrir et de poser un FKT sur ce qu'ils appellent le Tour du pays du Mont Blanc. Et c'est un chantier. Ça fait plus de 180, entre 180 et 200. Et il y a 12 000 mètres de dénivelé positif. Il a réussi, ouais. Bon, après, il a fait un tout petit peu plus de temps que ce qu'il voulait. Mais il a réussi, ouais, il est arrivé à Combloux. Là, tu pars. Bon, tu pars d'où tu veux, mais normalement, tu pars de Salanches. Tu montes dans les Fizes, Aiguilles Rouges, les Ouches. Tu remontes côté Saint-Gers, Prarion, tout ça. Ensuite, Contamine. Ensuite, Pras-sur-Arly. Ensuite, tu. Combloux, là, le sommet, petit cross-bolet, grand cross-bolet. Et tu redescends à Salanches. Globalement, tu fais 4 massifs.
Comment es-tu entré dans le team Sidas Matrix ?
Eh ben. En fait, à la création, c'était il y a 5 ans, j'ai fait la rencontre de Thomas Janichon et Simon Gosselin, qui sont les 2 créateurs du team, 2 jeunes, ouais, qui sont plus jeunes que moi, donc à l'époque, ils avaient 22-23 ans, et ils se sont dit, on va monter dans le trail, ce qui existe dans le vélo, c'est-à-dire une structure indépendante de haut niveau. Donc en fait, c'est vraiment comme dans le vélo, au sens où les marques viennent donner le naming et soutenir la structure, mais à l'image de Groupama FDJ ou de typiquement Lidl Trek qui a changé justement le Tour de France, en fait, la structure demeure indépendante et en fait, les partenaires peuvent venir se greffer et donner leur nom. Je précise ça parce qu'en fait, je trouve ça génial, moi en tant qu'athlète, parce qu'en fait, et Thomas nous le répète tout le temps, il nous dit, vous, votre but, c'est pas de vendre des chaussures, c'est de performer. Et j'ai aucun compte à rendre aux marques, en fait, d'une certaine manière. Je dois rendre des comptes à la structure, et ensuite, la structure rend des comptes aux partenaires. Et du coup, ça me donne, ça m'offre un paratonnerre qui est absolument... Enfin, en fait, en gros, j'ai aucune pression, quoi. Et ça, c'est génial.
Tu te fournis où tu veux.
Alors, en chaussures, bah, en fait, nous, on a le choix des chaussures dans tout le panel de chaussures qui possède du Matrix. Donc, en gros, globalement, comme si on pouvait prendre les chaussures qui avaient des semelles Vibram. Donc, en fait, on a les Salomon Genesis, les normales. Après, moi, j'ai des... Enfin,
alors, quels sont tes prochains objectifs ?
UTMB, le baptême. Alors, je vise plus de chrono. En fait, pour rien te cacher, après les mondiaux, j'ai vécu une sorte de satisfaction, frustration, au sens où... Alors, je sais pas si tu connais le scénario de la course aux mondiaux.
Oui, oui, t'as été malade, non ?
En fait, j'étais malade. J'ai pas été malade, non. J'ai eu une grosse défaillance à un moment donné. Mais en fait, globalement, je partais pour... Moi, je voulais faire une course en gestion et faire une course intelligente. Et c'est ce qui un peu me définit d'habitude, un peu par l'arrière, une course d'attente et finir fort. Globalement, c'est comme ça que je cours tout le temps, sauf aux France. Et du coup, ça avait changé un peu le prix, ça m'avait permis de gagner par la première grosse victoire de ma carrière. Là, du coup, je m'étais dit, course par l'arrière. Et du coup, je suis parti aux pulsations, à la fréquence cardiaque, un peu comme un cycliste partirait avec ses watts. Un peu aux pulsations cardiaques, parce que mon coach m'a dit, si tu pars à ces pulsations, c'est sûr que tu vas pouvoir tenir 10 heures. Et pour moi, tu ne seras pas si loin que ça. Enfin, tu seras globalement 20, 30. Et puis ensuite, après, ta force, c'est la deuxième partie de course. Donc... tu devrais être fort sur la deuxième partie de course. Sauf que je suis parti à ces pulsations-là, et je pense que j'avais tellement une bonne journée que je me suis retrouvé devant. Je regardais mes pulsations, je me disais, mais c'est pas... Tout le monde me disait, c'est parti fort et tout. Et moi, je me disais, mais... je trouve pas. En fait, j'ai un SV1 qui est assez haut, du coup, j'étais sous SV1. Donc, je fais cette première boucle. J'avais envisagé tous les scénarios, et vraiment, et même me retrouver 50e avec les Uruguayens. Je m'étais même envisagé de me retrouver avec les Belges.
Ah oui.
Worst case, il a vraiment... Non, je rigole, évidemment. Mais du coup, j'avais pas envisagé ce scénario-là. Et en fait, je pense que ma principale erreur, d'une certaine manière, elle est là maintenant. C'est de pas m'être fait confiance. Et du coup, une fois que je me suis retrouvé devant, j'ai plus su agir et j'ai déjoué. Et c'est là que j'ai compris, en fait, que... Déjà, l'expérience, ça compte énormément. Et qu'en fait, les champions, ils ont aussi un truc en plus, c'est que quand tu cours de l'arrière, globalement, t'es chasseur, mais tu gagnes pas. Donc c'est une situation qui est plus confortable. Quand tu veux gagner et que t'es chassé, franchement, il faut une force mentale, une confiance en soi et une gestion des émotions qui est absolument exceptionnelle. Et en fait, du coup... Moi, dans la deuxième bosse, je me sentais vraiment trop bien. Et là, je me dis, je vais en mettre, parce que, première sélection, ça arrive qu'une fois. Et je m'étais promis de kiffer. Du coup, j'ai appuyé, sans que ce soit... À aucun moment, c'était démesuré. Je regardais mon cardio, j'étais, en gros, en dessous de SV2, donc j'étais bien. Et là, en fait, je me retrouve premier. Et au moment où je double Andreas Reiterer et Frano, qui feront 2 et 3, au lieu de rester avec eux... Je pose un flingue direct et je pars parce que je me dis que je suis trop bien et que en fait dans un ultra t'as des hauts et des bas et quand les hauts ils sont là, les hauts sont là, il faut savoir les surfer et quand les bas ils sont là, il faut savoir les surmonter. Donc j'appuie, je me sens Et là, je me sens pousser des ailes. Et donc, du coup, pendant 2 heures, au lieu d'être dans la course de gestion, vraiment, vraiment en gestion, que j'avais prévu, je suis dans une course d'attaque, dans mes allures, mais dans une course d'attaque. Et en fait, j'avais prévu un plan d'alimentation qui était accolé à cette course de gestion. Donc, en gros, globalement, 50 à 60 grammes de glucides par heure. Alors que quand je suis dans une course d'attaque, je suis plutôt autour de 100 grammes de glucides par heure. Pourquoi j'avais fait ça? Pour pouvoir me préserver l'intestin et pouvoir attaquer sur la deuxième partie de course. Et en fait, du coup, quand je me suis retrouvé 4 heures en autonomie, ben en fait, dans une course d'attaque, globalement, je partais pour 4 heures, donc j'avais 200 grammes de glucides sur moi. Au lieu de les consommer en 4, je les ai consommés en 2. Et en fait, au bout de 2 heures, là, j'ai regardé et j'avais plus rien. Et là, je sentais que c'était vraiment limite. Donc, j'ai levé le pied pendant 1 heure. Je me suis dit, bon, bah, ça va aller. Je lève vraiment le pied. Là, je passe 2. Je continue dans mon effort. J'arrive bientôt au ravitaillement suivant. Et ça va le faire. Et en fait, la 4e heure, elle m'a été fatale. Et j'ai jamais connu ça.
Où as-tu puisé ton énergie?
En fait, j'ai trouvé des trucs mentaux pour me mentir. Mais tu vois, il y avait un ruisseau. Et je mentais mentalement en me disant, ah, en fait, c'est du coca. Et du coup, quand je buvais, j'imaginais que c'était du coca. Et du coup, j'ai bu énormément d'eau. Parce qu'en fait, il fallait que mon corps, il avale des choses. Il avait trop faim. Et en fait, à ce moment-là, j'ai plus trop de souvenirs. Parce que pour le coup, je suis allé vraiment loin dans l'effort. Et comme moi, je voulais honorer mon objectif, c'était honorer ma première sélection. Le résultat, je m'en foutais un peu. Je voulais vraiment que dans la manière, je sois satisfait de moi. Et je me disais, ok, t'as joué. Maintenant, faut que t'ailles au bout. Et je me disais, soit on m'arrête parce que je fais un malaise et je peux plus continuer, soit je vais au maximum et on verra, enfin, globalement, au bout de l'effort. Et c'est ce qui est arrivé. Et du coup, j'étais en bas, avant le ravitaillement du milieu, qui était au 45e kilomètre. Il y avait une énorme montée de 600-700 mètres de D+, sur une large piste. Vraiment une piste de ski, mais super raide. Et en fait, on voyait tous les écarts. Et là, je démarre 2, là, en bas de la bosse. Et en haut, je suis 30, quoi. Et en fait, là-haut, je prends 10-15 minutes. Je mange énormément, même beaucoup trop. J'attaquais tous les ravitaillements de tout le monde. J'attaquais le ravitaillement de Marion de Lespierre, celle qui est championne du monde, avec des fraises. Ces fraises Tagada. Bon, je l'en ai laissé, mais... Et là, je savais que j'étais fort. Et du coup, je suis reparti. Et à partir de là, c'est revenu. Et j'ai couru avec un athlète qui s'appelle Hannes Namberger, qui a gagné 2 fois le Lavaredo, qui a gagné le Mute, qui a gagné l'Eiger cette semaine, qui a fait 5 à l'UTMB. Donc vraiment un solide. Et en fait, à partir de là, il m'a repris. Et en fait, on a fait toute la deuxième partie de course ensemble. Et en fait, à partir du moment où j'avais remangé, je me sentais super bien, quoi, à nouveau. Donc du coup, j'ai fait un énorme détour. C'est le prof des ultra-trailers. Pour dire qu'en fait, il y a une frustration qui est née de ça, en me disant, en fait, je me suis prouvé que j'avais quelque chose de grand dans les jambes et dans la tête aussi, je pense. Et je me suis dit, au début, ah, je suis frustré, faut que je prouve à l'UTMB, faut que je mette la balle au fond de ce que je me suis prouvé, faut que je la mette à l'UTMB. Et en fait, en commençant à me dire, ouais, faut que je fasse top 10, voire même mieux, faut que je fasse autour de 21h, et tout ça. Et en fait, après, bien entouré, bien conseillé, on m'a dit, bah, soit tu vas concrétiser ce que tu t'es prouvé sur une CCC que tu connais, et tu vas essayer de faire ce podium international, soit t'es ok avec le fait d'être patient, ce que tu t'es prouvé au Mondiaux, tu le mets sous une cloche, une petite cloche à fromage, et tu iras le concrétiser l'année prochaine, mais sur l'UTMB, faut que tu partes en mode voyage, en mode découverte. Et de plus en plus, plus ça approche, plus c'est comme ça que je l'envisage. Je l'envisage plus trop sous le prisme de la performance. Attention, je reste hyper ambitieux, mais... Enfin, ambitieux, mais je vais pas me focaliser sur... Donc j'ai aucun... Tu vois, aujourd'hui, je prends plus de montre. Je vais faire à la sensation. Et je vais... En fait, je vais partir avec mes pulsations, parce que je pense que c'est important, jusqu'à Courmayeur. Et à partir de là, je vais tout enlever et advienne que pourra. Du coup, là, au Mondiaux, j'étais parti sous mon SV1, qui est à 170 pulsations minutes. Le gars qui a fait les tests me disait qu'il a jamais vu un SV1, enfin que c'était exceptionnellement haut. Par contre, il a rarement vu un SV2 aussi bas. En fait, j'ai pas la poignée si tu veux. Mon SV1 il a 170 et mon SV2 il a 175. En fait, j'ai que 5 pulses de marge. Donc à l'UTMB, je pense pas partir quand même à SV1, mais je pense l'idée c'est de partir autour de 155, 160 et voilà, voir où ça peut mener. À Courmayeur, enlever le cardio et à partir de là, apprendre quoi. Moi j'ai un gros problème aussi, c'est mes pieds. Je transpire énormément comme je te disais et du coup ça génère une sudation qui est très salée et du coup ça me fait des... ça gorge les chaussettes et du coup ça me fait des échauffements. Et les génésis, moi j'ai des pieds très larges aussi, les génésis sont assez serrés et du coup ça vient me chauffer sur le bord des pieds. Pour te donner une idée, l'année dernière sur la CCC, c'est un 100 bornes, hein, j'ai dû changer 3 fois de chaussures. Donc c'est... déjà tu perds 3 fois 2 minutes. Et en plus, à chaque pas, c'est un inconfort. Alors depuis, j'ai trouvé des solutions. L'année dernière, je mettais de la vaseline. Donc c'est horrible, ça fait... Et j'ai fait exactement ça à la CCC. Elle m'a dit, mais non, la vaseline, c'est en fait... Ça fait frotter encore plus. En fait, c'est un lubrifiant. Alors que la crème anti-frottement, ça va vraiment limiter les frottements.
Et sur les réseaux, tu as une marque de fabrique. Hein. Tu es très personnel. Est-ce que t'es coaché ?
En fait, non, c'est pas du tout... Enfin, aujourd'hui, maintenant, je me rends compte qu'effectivement, ça a donné une patte, mais c'est purement authentique. Moi, je suis comme ça. En fait, j'ai aucun mal à livrer mes émotions. Parce qu'en fait, j'ai besoin de communiquer. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça pourrait paraître comme si... dire ce que je pense... ça veut pas dire que les autres disent pas ce qu'ils pensent, mais plus par dire ce que je pense, disent ce que je ressens. Parce que des fois, je dis pas ce que je pense. Mais je dis plus facilement ce que je ressens que ce que je dis. Parce qu'en fait, je sais que si je pense quelque chose, un avis qui va être... qui va générer une friction chez quelqu'un, je vais pas le dire. Parce que je déteste le conflit. Et je le fuis tout le temps. Par contre, j'ai aucun mal à dire ce que je ressens. Je suis triste, j'ai peur. Je suis heureux. Voilà, dire vraiment ce que je ressens, j'ai pas... Et du coup, en fait, l'écrire, ça me permet plusieurs choses. Je trouve que quand t'écris, ça t'oblige à réfléchir. Donc d'une certaine manière, c'est comme si je faisais j'ancrais dans le marbre mes apprentissages d'une certaine manière. Parce que du coup, j'y reviens, je les relis. Et du coup, c'est un peu comme des leçons. Enfin, c'est comme si quand tu fais tes fiches Bristol et t'as tes cours, quoi. Donc c'est pour ça que j'aime bien écrire. Et pourquoi tu pourrais dire, mais alors dans ce cas-là, t'as qu'à les écrire que pour toi. Et t'es pas obligé d'y mettre de la forme et du style. Et en fait, j'aime partager. Parce que, comme j'étais pas programmé pour ça, moi, il y a 6 ans, 7 ans, je connaissais même pas Kylian Jornet. Maintenant, je connais tout et je suis un énorme passionné, un énorme geek de ça. Mais comme j'étais pas programmé pour ça, en fait, je prends tout comme un privilège. Enfin, jamais... il y a 5 ans, tu m'aurais dit, quand j'étais à Paris, tu feras visiter Combloo à Thibaut Simon pour leur parler de trail, tu seras champion de France de trail et tu prépareras à l'UTMB. Je t'aurais dit...
Je t'aurais dit, mais c'est qui, lui?
Je t'aurais dit, je suis chaud, mais ça n'arrivera pas. Et du coup, en fait, ça offre, je trouve, une certaine forme de candeur, d'innocence dont j'ai conscience, que j'alimente et que je veux préserver. Je fais exprès aussi de la préserver pour me dire, ok, en fait, tous les apprentissages qui arrivent, positifs ou négatifs, je vais les écrire et comme ça, en fait, je vais partager mon voyage. Je le vois vraiment comme un voyage, comme une démarche et avec des étapes. Et en fait, chaque apprentissage, c'est un peu comme un pays. Et là, le dernier en date, c'était mon poste mondial où la frustration a voulu que je reparte. Je disais à mon coach, en vrai, je cours dans 2 semaines, je me sens en forme et tout, au Mondiaux, j'étais bien, enfin, j'avais envie de mettre la balle au fond, quoi, concrétiser. Et il a raccroché le téléphone, il m'a dit, vas-y, rappelle-moi dans un mois, on verra. Et en fait, passer la frustration, mon corps il a eu un énorme down, je me suis senti vidé hormonalement, plus d'émotions, plus d'empathie, la faim détraquée. Et en fait là, plutôt que prendre que 2 semaines de pause, on est pris 3. Et en fait, jamais j'aurais envisagé ça et mon corps aujourd'hui me le rend vachement bien. Ce matin j'ai passé une séance, genre je pensais pas avoir des watts comme ça quoi. Et en fait, j'ai l'impression que mon corps, il le rend bien. Et ça, c'est un nouvel apprentissage.
Et tu parles aussi des choses à ne pas faire.
En fait, je fais plein d'erreurs. Et du coup, j'ai aucun mal à communiquer sur mes erreurs pour dire, bah les gars, je suis allé tester ce chemin. Franchement, n'y allez pas. C'est pas ouf. Par contre, je suis allé là-bas. C'était chiant, mais... Et voilà, c'est un peu ça. Après, chacun a sa méthode. Mais là, ce que tu dis, mon coach, il est comme ça. Il est partisan du moins plutôt que du plus. Et je trouve que là, c'est la surenchère. Surenchère de la borne, tout le monde borne plus. Et notamment avec Strava, c'est qui en fait le plus. Donc c'est la surenchère, en faire beaucoup. Et surtout s'entraîner tout le temps trop vite. Moi je m'entraîne avec des gars, mais ils s'entraînent tout le temps trop vite. Les endurances, on le fait tout en zone 3, au tempo. Alors qu'en fait le but, c'est juste de développer ses capacités, ses qualités physiologiques. Et moi quand je suis en endurance, je vais vraiment doucement.
Comment est-ce que tu arrives à tout caser dans une semaine ?
En fait, comme je te disais, j'ai monté ma petite boîte et moi, là, actuellement, je dédie 40 heures par semaine à mon sport, 20 à 25 heures d'entraînement, 7-8 heures de communication, voire 9 heures, 2-3 heures sur la récup, je vais chez le kiné, je dirais 1 heure à la prep mentale et après 2-3 heures à me faire à manger globalement, donc ça fait 40 heures et à côté de ça, je fais 40 heures pour mon boulot. Donc si tu veux, ça fait... Et je fais ça tous les jours de l'année. J'ai pas de vacances, comme je suis en auto-entrepreneur. Et quand j'ai fait ma fracture de fatigue, je l'ai fait au dos. Et le médecin, il m'a dit, et ma prof mentale, ils m'ont dit, mais cherche pas le dos, c'est quand on a trop sur le dos, en fait. Et en fait, cette fracture, ça m'a fait comme le confinement. Quand t'appuyais sur le bouton ralentir. Alors que j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui avait appuyé sur le double play x2 de ma vie. Là, il appuie sur le bouton ralentir. Parce que globalement, j'ai enlevé 40 heures par semaine. Et ça avait fait ça pendant 7-8 semaines. Et là, j'ai tout remis à plat. Et à partir de là, je me suis dit, je vais faire moins, mais mieux. Et surtout, je vais faire ce qui me semble bon pour moi. Bon, tu vois, une règle, moi, je viens de la ville, je suis passionné de musique électronique. J'adore aller en concert. Et ben... 10 jours avant les France, j'étais en concert dans une salle de concert à Lyon au Sucre jusqu'à 1h, 2h du matin. J'avais bu une ou deux bières, mais pas plus. Mais juste parce que mentalement, en fait, ça me fait vachement de bien. Je suis avec mes potes qui connaissent rien au trail. Et je suis dans un truc où je kiffe sans penser au trail. Et je me dis, en fait, quoi qu'il se passe dimanche, il y aura toujours des concerts. J'aurai toujours un boulot qui me plaît le lendemain et il y aura toujours un match de foot sur Canal+. Et ça, je veux dire, je le corrèle à ce que tu disais, c'est que chacun a son schéma, en fait. Il y en a un qui va pas devoir boire d'alcool pendant 6 semaines parce que ça le conditionne, ça le fait entrer dans une forme de rigueur. Et voilà. Et en fait, c'est pour ça que, tu vois, si tu me demandais pourquoi je partage, parce que moi, j'ai mis les doigts dans la prise de plein de trucs. Et je me suis électrocuté. Donc si je peux dire aux gens, franchement, évitez. Puis au final, maintenant, j'ai plein de bons retours. Et donc du coup, j'ai envie de... Moi, ça me donne de la force. Bah en fait, il y a un truc que je me suis rendu compte. C'est que les athlètes... Enfin, moi, j'ai aucun mal à parler de marque athlète. Tu sais, de se dire, comment en fait, tu développes une image un peu... quelque chose d'authentique, mais qui te différencie. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux te professionnaliser dans le trail, t'es obligé d'avoir une marque athlète assez puissante. Et alors, tu regardes dans le vélo, ils ont les RP, ils ont des énormes structures. Alors là, on est au sommet de Combloux. Et là, on va aller... Là, si vous voulez, c'est la frontière pour rentrer dans le truc plus sauvage. Et là, on va faire vraiment du trail. Alors, le reste, c'est du trail. Moi, j'adore, mais... Et en fait, du coup, s'entraîner ici, je trouve que tu deviens un coureur complet. Parce que tu viens bon sur ces pistes-là, comme un peu à l'UTMB. Et tu viens bon aussi dans les petits chemins techniques qu'on va faire, là. Donc là, on va au petit cross. Donc là, on est au sommet de la station de Combloux et on va au petit Crossbolet, qui est le sommet mythique de ce petit massif, qui est surmonté par le grand Crossbolet. On va se limiter au petit parce qu'au grand, il n'y a pas tout en ce moment. Sommet perché à 2009 d'altitude.
Ouais, tu préfères la descente, non?
Ouais, j'aime bien tout. En fait, moi, je veux être un coureur complet. J'ai deux forces, c'est des longues montées en endurance de force. Typiquement, je serais très mauvais en Belgique, je pense. Sur la bouillonnante, je serais pas bon. Je pense que le meilleur, c'est les descentes roulantes et les montées en endurance de force, raide ou pas raide.
Jamais de douleur, vu tes entraînements?
Bah, tu sais, des petites gênes, quoi. Et ça, pareil, je trouve que ça fait partie de la démarche de haut niveau et de performance. Faut accepter de composer avec les petites gênes. Avant, moi, j'avais... Ouais, j'ai un peu une phobie de la blessure. Et parce que je trouve qu'en fait, tu progresses quand t'es consistant à l'entraînement. Quand t'arrives à faire des 6 mois sans te blesser. Et en fait, avant, j'étais pas conscient, mais en fait, t'as tout le temps des petites gênes quand tu t'entraînes beaucoup. Et je trouve que ça fait une charge mentale de fou. Et en discutant avec tous les gars qui ont... Ils disent, bah non, mais c'est normal. C'est normal d'avoir des petites... pas des gènes, mais des petites présences, quoi.
La Combloraine, c'est gros, non?
Ouais, alors, c'est magnifique. C'est le plus beau trail du monde. Non, ouais, c'est vrai. Ouais. Tu me crois pas? Non, je dirais que c'est le plus beau trail du monde parce que... En fait, non, bon. Là, je trouve que c'est le plus complet. En fait, la Combloraine, c'est ça qui est sympa. Ça reste accessible. Parce que c'est pas non plus trop haut, c'est pas non plus trop technique, c'est pas trop engagé. Par contre, c'est absolument magnifique. T'es face au Mont Blanc. Et en fait, ils ont trouvé cette solution pour aller exploiter toute cette partie qui est magnifique sans trop devoir passer par ce qu'on a fait là. Enfin, sans de trop devoir se taper ça au début, quoi. Et en fait, ça sous-entend d'aller vers Cordon. C'est pour ça que ça faisait une trace. Tu vois, la plus petite distance, c'est 25. Et il fait quand même 1600 de dénivelé. Donc c'est quand même, pour un trail, c'est quand même... Mais généralement, tu vois, pour avoir quelque chose d'accessible, t'es plutôt autour de 20 et 1000. Sauf qu'ici, 20 et 1000, t'as rien de très beau. Et le grand, il fait 40 et 3000. Et il est absolument exceptionnel. Parce que t'as de tout. T'as du roulant, du très raide, du technique, du chemin 4x4 comme ça. Et puis t'es face au Mont Blanc, quoi. Et avec arrivée au plan d'eau, c'est hyper festif. Et donc après, en fait, tu pars de là-bas et t'arrives là-bas. Donc en fait, t'arrives, tu vois cette étendue bleutée là, face au Mont Blanc. T'as qu'une envie, c'est de te jeter dedans. Mais après, il y a un truc vraiment sympa, moins connu, c'est le col de l'Arpeta. Et ça, c'est juste au-dessus du Gine, juste au-dessus de Flumet aussi. Et ça, c'est absolument magnifique.
T'es un grand fan de musique aussi?
Ah, je suis fan de... Je pense que j'écoute 9 heures de musique par jour. Après, je suis plus fan de trucs un peu plus... Damso, j'adore par exemple ses premiers albums. Quand il était un peu moins connu. C'est marrant. Non, bah de Bruxelles. J'aime beaucoup ce que fait un mec qui s'appelle Jean Jass. Caballero, Jean Jass. Il y a des gars qui s'appellent Lasmala aussi. Ils sont de Belgique. Il y a un mec qui s'appelle Ledé, mais lui, il est de Liège.
Wow, c'est raide ici.
Ah ouais, là, on arrive sur c'est la partie la plus raide. Moi, je sais si je suis en forme si je passe tout en courant. Quand je passe tout en courant en petite foulée, tu me diras, je suis pas mal. Moi, tu vois, c'est marrant, mais il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, mec, tu parles beaucoup, heureusement que t'en fais un peu. Et c'est un Corse qui m'a dit ça. Et j'ai trouvé ça hyper juste. Bah, il me dit, tu parles beaucoup, heureusement que t'en fais un peu. Et en fait, c'est aujourd'hui, s'il y a un vrai débat, c'est que, en fait, si tu veux être pro, il faut quand même un peu s'exposer. Et du coup, c'est toujours le débat, tu vois, le trail, un peu vivons cachés, vivons heureux, mais aussi, si tu veux être pro, faut quand même communiquer. Et du coup, t'es un peu dans ce paradoxe-là d'être anonyme, mais en même temps, si t'acceptes pas de t'exposer un peu, en fait, tu peux pas demander aux partenaires de te soutenir. Et du coup, je trouve qu'il y a un vrai débat entre trouver la juste mesure, entre s'exposer, mais pas trop, quoi. Et la petite butte, elle est juste là.
Merci, Baptiste, pour cette belle balade et cette belle arrivée ici, au sommet.
Et moi, je suis trop heureux quand je suis là.
On reste quelques minutes au sommet et puis on redescend par un petit single jusqu'au centre du village de Combloux. Merci Baptiste de nous avoir emmenés sur tes sentiers, sur ta montagne et pour ce moment partagé. Ce 1er septembre 2023, Baptiste a couru l'UTMB et l'a terminé à une très belle 10e place. Merci à Combloux et à Mindshake qui ont rendu cet épisode possible. On se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres avec des passionnés de montagne.